Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Bienvenue dans les vraies voix, des vraies voix qui sont au mode Renault, hein, la marque de voiture, pas le chanteur, puisque le fondateur de la marque aux losanges était né le 12 février 1877, il y a 144 ans, et les vraies voix ont toutes quelque chose d'un modèle mythique de la marque Renault. Philippe Bilger, vu le grand séducteur qu'il est, a dû faire ses premières escapades en amoureux dans une 4 chevaux. On écoute le son de ce moteur légendaire. 760 cm3, 35 chevaux. Ça vous va, Philippe ? Vous avez une 4 chevaux ?
J'avais au moins le son sans avoir la lumière, quoi.
Elle a une belle carrosserie et démarre au quart de tour. C'est donc une Alpine Stella Kamga.
Magnifique.
Moteur PRV V6 turbo, 200 chevaux. Ça vous va ?
C'est parfait.
C'est parfait. Sa psychologie étant d'un niveau intersidéral, il est naturellement l'espace Jean Dorido.
Vous me gâtez, Philippe David.
Moteur 150 chevaux turbo diesel DCI.
L'espace qui a complètement relancé la marque à l'époque de sa sortie.
Absolument. Et Jean-Marie Bordry, au roi de l'info, au clin d'œil des VV et aux réseaux sociaux, le Alain Prost des vraies voix, puisqu'il avait piloté des Renault et des voitures à moteur Renault, Jamel à l'AREA et Aude au standard. Nos trois débats du jour à 17h30, veut-on faire taire Anticor ? Vous savez, c'est cette association qui lutte contre la corruption et qui doit avoir un agrément pour faire des procès, un agrément qui ne revient pas. À 17h40, gaspillage d'argent public, les élus locaux doivent-ils payer ? Oui, vous avez vu, à Amiens, les bus électriques ne peuvent pas rouler parce que c'est drôle, les freins ne marchent pas par temps froid. Et à Paris, les naturinoirs, alors c'est des urinoirs naturels qu'on a mis dans la ville, ont des panneaux solaires, mais qui ne fonctionnent plus quand il y a de la végétation. Oui, on ne savait pas que les arbres avaient des feuilles au printemps, jusqu'à l'automne. Et donc, ça a coûté pour une seule avenue 40 000 euros quand même, cette bêtise. Donc, doivent-ils payer ? Enfin, à 18h30, débat Darmanin-Le Pen, La République En Marche essaie-t-elle de doubler le Rassemblement National sur la droite ? Vous voulez réagir, ça se passe comme toujours au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Ça va bien les VV ?
C'est parti.
Au top.
Très bien, mon cher Philippe.
Vous avez tous de belles carrosseries quand même. Philippe Bilger, vous tout en rondeur la 4 chevaux.
Ouais, en rondeur. Ouais. Plutôt potelé. Ouais.
Tout en design pour Stella et tout en volume pour Jean Dorido.
Et alors Philippe David, alors c'est quoi alors ?
Oh, je suis pas un modèle mythique.
Oh bah si, mais alors je suis en train de le chercher justement. Oh, peut-être une belle Renault 25 Courchevel.
C'est celui qui répare.
Elle était au top.
Je vais aller mettre les doigts dans les fils.
Hein, Philippe ?
Absolument. Vous êtes prêts pour un tour de table de l'actualité ?
C'est parti.
Allez, c'est parti.
Pas de panique, nous sommes des professionnels.
C'est tout à fait vrai.
Ah bon ?
Vous causez de quoi ? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et on commence avec Philippe Bilger qui veut nous parler de Roland qui a retrouvé sa maison à Toulouse. Et il était ce matin dans le Grand Matin de Patrick Roger et Cécile de Manibus. On écoute un extrait.
Oui, je suis très content, très heureux même. Et j'embrasse tout le monde qui m'a aidé.
Oui.
C'est une deuxième vie, oui, qu'ils m'ont donné. Oui, tous ces gens. Oh, oui. Je suis vraiment heureux. Hein. En France, c'est comme ça, on ne se fréquente pas et tout. Mais quand il y a des pépins, on se met tous ensemble pour défendre. Hein.
Alors, Philippe Bilger, vous vouliez dire un mot et on a Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault, qui s'est engagé pour Laurent, mais on vous écoute, Philippe Bilger.
Alors, Laurent, j'ai eu la chance de l'écouter ce matin.
Non, c'est Roland, pas Laurent.
Roland, et c'est Philippe David. Mais Roland a eu des propos très émouvant ce matin, notamment les extraits qu'on vient d'entendre, mais il en avait eu un autre en disant « Mais je tiens à retrouver l'EHPAD parce que je l'aime, mon épouse ». Les vraies voix avaient déjà parlé de Roland, vous l'aurez noté.
Absolument.
Et ce matin, il est intervenu au téléphone durant 5 minutes avec Patrick Roger et Cécile du Minibus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en totale sincérité l'éloge de Sud Radio parce que Le slogan « Parlons vrai », c'est aussi la confrontation de paroles. C'est l'écoute de gens qui sont en général dans l'obscurité et la modestie. Et j'aime énormément dans Sud Radio le fait que de manière ponctuelle, on ait parfois des actions et des paroles de solidarité, de générosité. Je veux dire par là que je détesterais une émission qui ne serait consacrée qu'à faire du solidarisme prétendu. Tendre à aider les gens, en faire une industrie. Ce que j'aime, c'est qu'on choisit nos causes. Rappelez-vous Perpignan, avec ce malheureux qui ne pouvait pas sortir de chez lui parce qu'il était trop gros, il avait été blessé. Là, Roland, je trouve que c'est formidable. Ça donne un véritable humanisme à une radio qui n'en parle pas tout le temps et donc qui en a beaucoup.
Et on a quelqu'un qui a... à Toulouse, il y a un groupe qui chantait « Tomber la chemise » mais qui a mouillé la chemise pour... Pour Roland, c'est Patrick Vignal, député LAREM de l'Hérault. Patrick Vignal, bonjour.
Bonsoir, monsieur Bilger, mais c'est une vraie Formule 1 que vous êtes, cher Philippe, de générosité, d'empathie.
Mais attends, Patrick, il m'a oui. Collé dans une 4 chevaux, je sais pas quoi.
Ça va pas du tout, Philippe, ça va pas du tout, ça. Non, mais vraiment, ça va pas du tout. Et alors, plus sérieusement, en fait, déjà au mois de décembre, j'avais été alerté avec Élise Lucien, envoyée spéciale, sur le problème de Martine Garofalo, une grand-mère qui avait laissé sa maison pendant 2 ans et qui avait du mal à les récupérer. Et c'est vrai que je m'étais dit que la loi ne peut pas tout, parce que d'abord, du temps qu'on vote une loi, qu'on mette en place les décrets, et puis c'est vraiment très formel, très cadré. Et donc je m'étais imposé en tant que médiateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le jeune squatteur qui avait un bail à Axel est rentré chez lui, il avait des problèmes de permis, il a récupéré son permis, il va trouver un job, et Martine a passé son Noël chez elle, avec le soutien d'Olivier et des bénévoles. Ça, c'est la France qu'on aime. Et donc, si vous voulez, quand j'ai vu cette histoire de Roland à Toulouse, ça m'a fait la même impression. Et j'ai appelé donc sa fille Diane, mardi matin, et je lui ai dit « Comment on peut vous aider ?» Donc, j'ai appelé le parlementaire du coin, Pierre Cabaret, qui était prêt aussi à jouer le jeu. Et donc, avec la fille, on a essayé de monter une stratégie intelligente. Et on avait donc un voisin qui a fait des photos, c'est important ce que je vous dis, parce qu'on a des preuves, qui a fait des photos, et donc qu'est-ce qu'on a vu? Et ce ne sont pas des squatteurs, je voudrais le dire, ce sont des voleurs. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je n'ai pas de souci. Il y a 4 millions de logements en France vides. Il y a 300 000 personnes qui dorment dans la rue. Certaines des femmes, des mères de famille avec 2 gamins dans des voitures. Donc ils sont rentrés en septembre dans cette maison, elle était inoccupée. Why not? Ils s'aperçoivent que c'est un vieux monsieur de 88 ans qui loue un petit appartement près de sa femme, qui veut vendre sa maison parce qu'il veut vivre des jours heureux avec sa femme, et dans la seconde, ils sont pas capables de dégager. Donc, c'est pas possible. C'est pas des squatteurs, c'est pas des gens qui ont un avenir politique. Et je vais vous dire pourquoi. Détruit de la maison, ils ont volé le Solex, ils ont volé une malle pleine de chaussures et ils ont volé une gazinière. Donc, je le dis sur votre antenne, ce ne sont pas des squatteurs. Ne les appelons pas des squatteurs, on insulterait les gens qui ont besoin d'avoir un toit. Ce sont simplement des voleurs. Et donc, la fille de monsieur Letard porte plainte et je la soutiendrai jusqu'au bout. Et puis surtout, je voudrais remercier Bilal Amouré. C'est un jeune de la résidence. Un gamin qui pratique d'ailleurs les arts martiaux, juste à côté, et qui, lui, mardi soir, avec des copains, a joué le rôle que je jouais il y a quelque temps, c'est-à-dire la médiation. Parce qu'on va être tous d'accord. Ce qui arrive là, l'après-Covid, des entreprises qui vont fermer, des gens qui n'auront plus de job, il faut qu'on ait une société où on remette l'humain. La loi n'est pas suffisante. D'abord, on encombre les tribunaux. Et moi, je me félicite qu'après un parlementaire qui mouille la chemise, il y ait des citoyens. Ce jeune, il est exceptionnel. Et je vais vous dire, d'ailleurs, je vous lance à votre antenne, parce que vous avez raison, Philippe, vous avez été extraordinaire, Sud Radio. Vous avez été quasiment les seuls. Moi, j'irai remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Vous savez, cette médaille, on la remet pour des héros. Oui. Ce jeune et ses copains, ce sont des héros, ces gamins. Et donc, je le dis d'ailleurs, j'ai changé le maire de Toulouse. On ira la semaine prochaine. On va organiser avec notre papy et sa fille et tous les gens du quartier ce que c'est que la France. La France, elle doit être solidaire. La France, elle doit être unie. Et bien là, ce sont des jeunes qui nous a expliqué comment ça marchait, j'en suis ravi.
Patrick Vignal, on peut aussi rendre hommage à la Dépêche du Midi, où a travaillé Roland pendant 37 ans, qui a aussi sauté l'affaire.
Au rotative.
Et je tiens à rendre hommage à quelqu'un que toute la France connaît, au moins les passionnés de rugby, c'est Greg Lambollet qui avait commencé à faire une cagnotte.
On salue
Greg, qu'on connaît bien sur Sud Radio. Restez avec nous, Patrick Vignal, on fait réagir les vraies voix. Stella Kamga, vous qui êtes camerounaise, quand vous voyez qu'en France, on peut occuper le logement de quelqu'un, et si on attend plus de 2 jours, parce qu'on est parti en vacances, ou qu'on est hospitalisé, ou quoi, ou qu'est-ce, on ne peut pas faire expulser les gens, ça vous inspire quoi ?
C'est honteux. Honnêtement, c'est pas aujourd'hui que je suis face, ou même que j'entends ce genre de problème en France. Effectivement, il y a quelques années, enfin, deux années d'ici, une connaissance à moi qui faisait du Airbnb dans ses appartements, a donné sa clé à un compatriote qui est parti avec les clés de l'appartement et qui a loué l'appartement à d'autres personnes. Heureusement qu'elle avait changé les clés, qu'elle a constaté qu'il n'avait pas remis les clés. Sinon, effectivement, le soir même du jour, il y avait déjà les locataires qui arrivaient carrément, et donc elle était sur le point de perdre sa maison. Donc, et malheureusement, encore une fois, la France, c'est bien, c'est beau, c'est un pays qui respecte réellement la vie humaine, parce que si on va dans le sens de la justice, ce monsieur-là, la justice n'a pas tranché à sa faveur. Si c'était
c'est
pas les voilà, c'est la mobilisation qui a fait partir
avec députés,
les voleurs,
voisins, et voilà. Etc.
Mais sinon, la justice a tranché à la faveur des supposés squatteurs qui, selon la loi très hivernale, on peut pas les mettre dehors, on peut pas les mettre à la rue. Mais vous vous rendez compte que oui, il a récupéré sa maison, mais une maison vide en fait, une maison où il a perdu peut-être la moitié de ses souvenirs, de ses vêtements, de ses chaussures, de ses meubles, et pourquoi pas. Donc c'est vraiment triste. En tout cas, un grand bravo à toute l'équipe qui a été avec eux,
et
qui s'est mobilisée et qui l'a soutenu.
Jean Dorido.
Oui, alors je vais aller dans le sens de Stella. C'est vrai qu'évidemment, je me réjouis que Roland ait retrouvé, bien sûr, sa maison. Maintenant, je reste très, très perplexe. Je trouve ça très embêtant. Cette justice, finalement, qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, qui, finalement, ne sert à rien. Et je m'étonne d'entendre monsieur le député se féliciter, finalement, que ce soit grâce au voisinage, dans
Mais
le fond...
Mais c'est comme à Théoul, les médias, etc.
Oui, c'est-à-dire que c'est un vrai souci, parce que c'est précisément ce qui fait la grandeur de la République française et d'une démocratie, c'est qu'il y a une justice qui est indépendante, que l'on peut saisir et qui défend les personnes qui ont besoin d'être défendues. Et ce que dit Stella est très juste, là, ça n'est pas le cas, et c'est un vrai, vrai souci. Alors, déjà, le distinguo entre voleur et squatteur, bon, là, c'est vrai que la notion, vraiment, le distinguo m'échappe. Il y a un droit au logement qui existe, certes, le droit à la propriété, ça existe aussi. On a des notaires en France qui font des actes de propriété, ça coûte très cher d'ailleurs de faire dresser un acte de propriété, et les notaires prennent de l'argent au passage. Je me demande à quoi ça sert dans le fond. Il y a effectivement cette espèce de règle qui établit que finalement, quand quelqu'un s'installe quelque part, change les serrures, eh ben, il est occupant de fait de la maison, et ça vraiment...
La fin, rapidement à Patrick Vignal et Philippe Bilger, mais Philippe Bilger et Patrick Vignal.
Alors,
Philippe Bilger.
Alors, deux choses, Patrick, si je peux mettre un peu d'ironie, le jeune homme qui est intervenu, quand on est médiateur, mais qu'en même temps on est doué dans les arts martiaux, ça aide un petit peu.
Philippe Bilger est le Bruce Lee des vrais voix,
ça peut
le savoir.
En bagarre générale, alors c'est bien ça, quand ça se finit tout à l'hôpital, ça c'est bien, c'est ça qui fait rire,
non,
c'est ça.
Non, c'est de l'ironie.
Non, mais j'aimerais comprendre.
Mais Jean, vous êtes un mauvais coucheur ce soir.
Non, mais on appelle donc une bande de malabar, et puis comme ça on fait la loi, on s'installe quelque part et on fait la loi comme ça en fait, c'est ça.
Mais Jean,
chacun son tour.
Je vais répondre à votre argument judiciaire, Jean. Ouais. Il est très juste, mais en même temps, vous aurez remarqué qu'à la suite d'une affaire il y a quelques mois qui avait vraiment défrayé la chronique, on a pu constater que la justice pouvait aller plus vite. Et malheureusement, malgré cela, eh bien, vous avez raison de dénoncer une lenteur, mais j'allais dire d'autant plus choquante qu'elle relève des règles. Mais il ne s'agit pas de penser qu'on met la France à feu et à sang, rassurez-vous.
Patrick Vignal, c'est vrai qu'un squatteur, c'est toujours un voleur, quel que soit X, parce qu'il vous prend votre domicile.
Non, Philippe, rapidement, le cas de Rochefort-Bugard, avec le Covid, le jeune pouvait rester jusqu'au mois de juin. Avec de la médiation, avec l'avocat de la propriétaire, on a trouvé un compromis, on a fabriqué du consensus. Le cas de Toulouse, le jeune, il n'est pas arrivé armé avec 20 copains. Est allé voir les squatteurs, il leur a dit, écoutez les gars, vous n'êtes pas en train de fracturer une banque, vous n'êtes pas en train de prendre une villa d'une collectivité. Il y a un vieux monsieur qui a 88 ans, il veut rejoindre sa femme, ça se fait de l'humilité, cher Jean. On a voté une loi, la loi SAP s'applique, mais au mois de septembre, elle ne s'appliquait pas. Aujourd'hui, si on vous squatte votre maison, si vous n'êtes pas là, un proche ou un membre de votre famille peut aller porter plainte. Mais c'est très long. Là, moi, je me félicite à la fois les gens, dans un consensus, puissent donner raison. Et mais, oui, ce ne sont pas des squatteurs, ce sont des voleurs.
Et
parce
bravo.
Que non contents qu'ils rentrent de la maison, ils ont piqué un scooter et ils ont piqué une malle. C'est ce que je leur reproche.
Et bravo à Bilel, bravo à Greg Lambonnet, pardon, et bravo à vous, Patrick Vignal, d'avoir mouillé la chemise pour ce cher Roland qui a retrouvé sa maison. Vous êtes bien, enlèverez-vous, on est très en retard. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bigère, Stella Kamga et Jean Dorido. Second tour de table avec Stella Kamga qui veut nous parler de Didier Lemaire qui, dans les vraies voix hier soir, nous a annoncé quitter l'éducation nationale. Tiens, on le réécoute.
Mon exposition médiatique fait que je pose aussi un problème en tant qu'enseignant à mes élèves. Je ne peux plus avoir l'espace de neutralité pour enseigner la philosophie et je pense pas plus dans ce lycée maintenant que dans un autre. De plus, je suis devenu une cible pour une grande partie de personnes et donc effectivement, il n'est pas très raisonnable que je reste aujourd'hui dans un établissement scolaire.
Stella Kamga.
Oui, c'est vraiment dommage que parce que je me base en fait sur les témoignages de ces élèves, ces anciens élèves qui ont énormément parlé de lui sur Twitter en disant que c'était un brillant professeur. Et c'est vraiment dommage que l'enseignement public perde encore une fois un élément pareil, justement, parce que en France aujourd'hui, dans le siècle que représente aujourd'hui l'enseignement, l'éducation, on peut plus s'exprimer. On est muselé et c'est ce qui fait en quelque sorte c'est ce qui fait que les écoles privées aujourd'hui prennent le pas sur les écoles publiques parce que c'est pas tant la question des moyens. La question des moyens est secondaire. On peut être pauvre mais bien éduqué. Je pense que le premier problème en réalité c'est un problème d'éducation. Si le professeur rentre en classe et que les élèves lui manquent de respect, n'écoutent pas la leçon, on lui parle comme un chien, ne respectent pas l'autorité qu'il représente, comment voulez-vous qu'ils aient envie de donner coup, comment voulez-vous qu'ils se donnent même à corps, comment voulez-vous qu'ils prennent leur métier à cœur. Donc du coup, je comprends qu'il y ait déjà ce premier pas, en fait, il y a beaucoup d'enseignants qui partent du public pour le privé, parce que déjà le privé paye mieux, les élèves sont plus posés et respectent mieux les enseignants. Donc moi, j'ai trouvé que c'était c'était dommage que l'enseignement public perdait un élément pareil.
Philippe Bilgère, c'est très intéressant ce que dit Stella. Est-ce que vous croyez pas que quand on voit le peu de respect qu'ont les profs par les élèves et le peu de soutien que leur offre leur hiérarchie, on comprend pourquoi maintenant plus personne veut être prof et qu'on recrute à 4 de moyenne.
Je n'en sais rien, Philippe.
Ah si, il y en a qui ont le concours de prof avec 4 de moyenne.
Mais oui, mais vous aimez globaliser, c'est votre grande capacité de conviction et votre grand défaut. Parce que vous tirez d'un petit exemple une généralité, vous êtes terrifiant dans ce domaine. Mais c'est sérieusement, Philippe, vous posez un vrai problème. Être professeur, c'est un très grand métier, premier point. Deuxième point, j'ai entendu comme vous, en effet, Philippe, hier, Didier Lemaire, et alors que j'avais une approche non pas critique, mais nuancée de sa personnalité, je l'ai trouvé sur Sud Radio très remarquable hier soir. Mais ce qui me distingue, j'ai eu des débats passionnés et passionnants ces deux derniers jours avec d'autres sur Didier Lemaire et la ville de Trappes, c'est que je suis généralement d'accord avec le constat pessimiste qui est fait, c'est sur un plateau de la balance, mais je ne voudrais pas qu'on oublie de mettre sur l'autre le fait qu'il y a peut-être des avancées tout de même et que au fond il n'y a pas de désespérance qu'un jour ça pourra s'améliorer même à Trappes et même pour les professeurs, même si ce malheureux professeur très lucide se dit contraint de quitter l'enseignement.
Jean Dorido.
Oui, non, c'est vrai que c'est une affaire assez terrible qui, je trouve, ce qui est très surprenant, c'est que ça oppose le maire de la ville de Trappes à cet enseignant et même à l'État d'une certaine façon, parce que le professeur le maire bénéficie aujourd'hui d'une protection policière et pourtant le maire, monsieur le maire de la ville de Trappes porte plainte contre le professeur. Il était même, je crois, aujourd'hui ou hier en train d'organiser un tractage devant l'établissement scolaire, et ça c'est vrai que c'est assez étonnant et même, je trouve, assez terrifiant, parce que je trouve que ça fait écho même à cette décision de Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui a décidé de rouvrir les musées. C'est comme si finalement certaines municipalités devenaient finalement des fiefs et décidaient de s'affranchir, pour une raison ou pour une autre, de l'autorité de l'État. Et pour moi, ça va un peu dans le sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les squatteurs. C'est que j'ai le sentiment, et je trouve ça assez triste, que les institutions qui sont essentielles au bon fonctionnement de notre pays sont en train de se déliter en réalité.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 17h27, Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Jean Dorido. Dans quelques instants, notre premier débat, veut-on faire Anticorps? Vous savez, l'association anticorruption. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Jean Dorido. Anticorps ne pourra peut-être plus lutter contre la corruption des élus et des hauts fonctionnaires. L'association est en effet toujours en attente de son agrément. Agrément qui lui permet de saisir la justice et qui expire lundi prochain. Les services de l'État ont demandé à Anticorps l'identité de son plus gros donateur. Mais voilà, l'association refuse de le communiquer. Anticorps dénonce une procédure politisée. Veut-on faire taire Anticorps? Vous pouvez réagir au 0826 300 300. Nous sommes en compagnie d'Élise Van Beneden, présidente d'Anticorps. Bonjour Élise Van Beneden.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que c'est quand même pas un peu bizarre de devoir avoir un agrément pour pouvoir porter plainte contre des malversations d'élus?
Oui, c'est assez bizarre, à vrai dire, c'est une spécificité un peu à la française, puisqu'il y a d'autres pays dans lesquels les citoyens peuvent porter plainte pour corruption et prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics contre les élus. En France, c'est pas possible. C'est ce qui explique en partie l'existence d'Anticorps, en plus du fait qu'on est dans un système où le procureur, non seulement est hiérarchiquement soumis au garde des Sceaux, mais en plus a le pouvoir de classer sans suite.
Alors, deuxième question, et on va vous rappeler sur une ligne fixe, parce que là on est sur Reportit et le délai est très long pour que vous entendiez. Est-ce que vous avez des informations sur ce pourquoi, pourquoi cette attente pour pouvoir avoir à nouveau cet agrément ? Élise Van Beneden, on va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que c'est choquant ou pas, vous qui êtes ancien au magistrat ?
Philippe, moi, je n'ai jamais présumé les institutions malveillantes. Je veux dire, par conséquent, j'ai un regard plutôt positif sur l'institution judiciaire en reconnaissant qu'elle a des failles et des carences. Et donc, Anticorps, je ne suis pas forcément enthousiaste de toutes les actions qu'elle a menées, mais je considère qu'elle constitue un apport indispensable à l'institution judiciaire, et j'ai dans la tête un certain nombre d'affaires qui, grâce à elle ou grâce à lui, comment dit-on, ont prospéré. Donc il serait totalement scandaleux politiquement et juridiquement de ne pas donner l'agrément à Anticorps.
Élise Van Beneden, on vous a retrouvé a priori. Élise Van Beneden?
Oui, je vous écoute.
Oui, et est-ce que vous avez des informations de pourquoi cette attente si longue pour avoir l'agrément?
Alors, si vous voulez, l'attente a été longue en partie parce qu'il y a eu la question du nom des donateurs. C'est-à-dire qu'à partir de début novembre, j'ai posé la question du ministère qui nous demandait le nom de nos adhérents. Moi, j'ai refusé de le donner, tout simplement parce que j'ai pas le droit de le donner. Ce sont des données personnelles. Et si je le donnais, je risquerais 5 ans de prison. Et de toute façon...
Élise Van Beneden, où il y a un problème... Oui.
Oui.
On va faire réagir Jean Dorido.
Oui, alors, pour le coup, là, c'est dans le sens de Philippe Bilger que je vais cette fois. C'est vrai qu'Anticor, ça semble être vraiment une association vraiment extrêmement saine, qui participe à la bonne santé démocratique d'un pays. Pour autant, c'est vrai que je suis sincèrement curieux de connaître les noms des plus gros donateurs. Une association a un budget, et c'est vrai que dans un souci, je dirais, d'indépendance, c'est comme pour la presse, on connaît les principaux actionnaires des groupes de presse en France, c'est toujours intéressant, même si, bien sûr, c'est le job du rédacteur en chef de faire en sorte que son journal reste indépendant, c'est toujours intéressant de savoir à qui appartient Libération, Le Figaro, Le Monde, parce que ça n'est jamais neutre, en réalité, c'est quand même le nerf de la guerre, l'argent. Et c'est vrai que je serais curieux, d'ailleurs, je pose la question, si vous m'y autorisez, Philippe David, à notre invité, je me demande bien qui est le principal donateur d'Anticor.
Élise Van Beneden, présidente d'Anticor.
Bah écoutez, vous me posez la même question qu'au ministère, et si je vous réponds, je risque 5 ans de prison, en fait, parce que c'est une donnée personnelle et que j'ai pas le droit de vous la donner. Et d'ailleurs, quand on a échangé avec le ministère, au mois de novembre, j'ai pris la peine de saisir la CNIL pour lui poser la question, et la CNIL a répondu le 1er février que c'était des données personnelles, que le ministère n'avait pas à nous les demander, et que surtout, nous, on n'avait pas le droit de les donner.
Stella Kamga.
Moi, je ne partage clairement pas leur point de vue, pour la simple et unique raison que... Parfois, il y a des donateurs qui doivent rester secrets. Pour la simple et unique raison que ce n'est pas n'importe quelle association, c'est une association qui lutte contre la corruption. Je pense que s'ils dévoilent cette donnée-là...
Et je vous coupe, ça existe au Cameroun, des associations comme Anticor ?
Bien sûr. Bien sûr. Et justement, à partir du moment où on connaît l'identité des principaux donateurs, il y a des risques pour eux. Il y a des risques qu'on s'en prenne à eux. Mais ça reste mon avis, Philippe Bilger. On n'est pas obligé de...
Non, mais c'est dans le même sens. Il disait que c'est pas permis de donner.
C'est pas permis.
Voilà. Donc, moi, je ne suis pas curieuse de tout. J'ai pas envie de tout savoir. Ça ne m'intéresse pas de savoir si, Philippe David est principal donateur d'Anticor ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que Anticor...
Non, je dis, c'est pas moi.
Ouais, c'est juste un exemple. Moi, ma question, c'est est-ce que Anticor, ma curiosité serait plus, est-ce que Anticor fait vraiment ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire mettre à jour les statuts de corruption des élus et tout ce que ça comporte. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas du tout.
Élise Van Beneden.
Bon, non seulement c'est interdit, mais en plus on le ferait pas parce que nous, on estime qu'on a déjà subi des procédures bâillons, c'est-à-dire des procédures pour nous faire perdre du temps, pour nous fatiguer psychologiquement, etc. Par exemple, la procédure administrative qu'il y a eu contre le vice-président d'Anticor l'année dernière, qui a duré un an quand même. Donc nous, c'est aussi un réflexe de protection. Et de toute façon, à l'intérieur d'Anticor, on a des mécanismes pour se protéger. C'est-à-dire que là, par exemple, les salaires de nos salariés, le loyer de notre local, toutes nos assurances, nos contrats fixes sont pris en charge par les cotisations de nos adhérents. Donc ils ne dépendent pas des dons. Et de toute façon, les donateurs ne peuvent pas intervenir dans les décisions du conseil d'administration. Hein, c'est impossible.
Philippe Bilger.
Madame la Présidente, et pardon, le titre est un peu pompeux, vous devez être très jeune, mais...
en vous-même, vous êtes président de l'Institut de la Parole.
Moi, je soutiens absolument, pour la plupart de ces causes, Anticor, mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ce retard dans l'agrément, certes lié par exemple au donateur, alors que vous n'avez pas le droit de donner son nom, est-ce que ça ne vient pas d'un reproche de politisation qu'on vous ferait ? Est-ce que vous êtes totalement équitable, impartial dans vos actions ?
Bah écoutez, on nous fait tout le temps ce reproche, ça fait 10 ans.
Non, c'est une question,
On est une officine du PS, de LFI, etc. Et si vous regardez nos actions sur notre site internet, nous, on a porté plainte contre la gauche aussi. On a porté plainte contre Madame Hidalgo, contre Guérini. Voilà, on a des affaires aussi à gauche, Mathieu Gallet. C'est normal qu'Anticor s'attaque au pouvoir, en fait. Anticor s'attaque à la corruption, et la corruption est un abus de pouvoir. Donc il faut avoir du pouvoir pour en abuser. Il ne faut pas forcément analyser ça sous le prisme de quelque chose qui serait partisan. Et sur ce sujet, d'ailleurs, moi, ce que je vois de ce qui se passe, c'est dernière semaine, parce qu'il y a une politique de calomnie qui a été mise en place contre Anticor, elle vient de personnes qui sont extrêmement politisées. On a eu des attaques par le JDD, par Valeurs Actuelles, par le Causeur, par un député. Ce sont eux qui sont politisés, ce n'est pas nous.
Direction le 0826 300 300. Bonsoir Marie.
Bonsoir à tous.
Vous nous appelez de Marie, vous nous appelez de Paris, pardon, excusez-moi Marie, et vous pensez qu'il faut soutenir au maximum Anticor ?
À 100%. Je suis tout à fait les dires de M. Bilger, parce que si c'est impartial et comme ils nous l'ont démontré sur les affaires qu'ils ont sorties, oui, il y en a de gauche, il y en a de droite, il y en a de tous les partis. Donc oui, il nous faut absolument anti-corps, il nous faut un pouvoir comme ça en France, surtout les élections tardives là. Il nous faut. Et moi, on veut les faire. On veut. Voilà.
Et alors, la ligne n'est pas très bonne. Élise Van Belenen, vous avez entendu le soutien de Marie ?
Oui, merci. Bah oui, on a eu beaucoup de soutien ces temps-ci. Et effectivement, il faut soutenir anti-corps. Parce que là, si on n'a plus d'agrément, on ne pourra plus agir en justice. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec les affaires qu'on a commencées. On en a une centaine d'affaires en cours. On a un contentieux extrêmement important. Donc, il faut soutenir anti-corps. On est en passe de devenir un contre-pouvoir. Et une démocratie a besoin de contre-pouvoir.
Eh bien écoutez, une démocratie a besoin de contre-pouvoir, ça c'est le fondement de la démocratie. Merci beaucoup Élise Van Belenen, présidente d'Anticor, et on devrait avoir des nouvelles d'ici lundi alors.
D'ici ce soir a priori.
D'ici ce soir a priori. Merci beaucoup à vous, tout de suite le second débat de Vraie Voix.
Les Vraies Voix Sud Radio.
T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle.
Ah oui, on en paye des impôts, mais parfois on se pose des questions, puisqu'à Amiens... Approchez-vous bien, les bus électriques, c'est drôle, sont à l'arrêt à cause du froid. Et oui, c'est pas une blague, les systèmes de freinage sont inutilisables à cause du gel. Seuls 6 des 43 bus peuvent circuler. On ne savait pas que les bus fonctionnaient seulement dans les pays chauds, a ironisé le président d'Amiens Métropole, Alain Geste. À Paris, cette fois, ce sont les urinoirs écolos, les naturinoirs qui posent problème, ils font un flop. Au moins 40 000 euros ont été investis dans ces naturinoirs. Gâchis d'argent public, les élus doivent-ils payer? Et pour le moment, vous êtes 87% à dire oui sur Twitter. Philippe Bilger, les bus qui ne freinent pas à cause du froid à Amiens l'hiver et les urinoirs qui ne fonctionnent pas à Paris l'été parce qu'ils fonctionnent à base, c'est drôle, hein, à base d'énergie solaire et que la végétation des arbres les empêche de charger en électricité, c'est à la limite du royaume du Père Ubu ou de Franz Kafka, non ?
Oui, alors c'est vrai que ça nous oblige à nous interroger, Philippe, sur la responsabilité, non pas d'infractions, mais de ces multitudes de négligences, d'approximations, d'absurdités qui parsèment la vie politique, la vie sociale. Il faudrait trouver le moyen, mais peut-être le moyen existe-t-il déjà dans notre arsenal, de mettre en cause, voire de poursuivre ou de disqualifier en tout cas les auteurs de ces absurdités. Comme si, en réalité, au moment où ils mettent en œuvre ces mécanismes, ils n'étaient pas capables d'imaginer le pire qui a suivi et qui tient compte de ce que vous avez rappelé. Mais je n'ai pas de solution toute faite là-dessus si je veux, comme vous, les mettre en cause.
C'est là, Camilla, c'est quand même surréaliste, les bus qui freinent pas quand il fait froid.
Mais oui, de base même, avant qu'on ne mette en place un projet, il y a toujours la question de savoir qu'est-ce qui peut nuire à ce projet-là. Est-ce que ce projet va aboutir et s'il n'aboutit pas, pourquoi? Il y a toujours ces questions-là qu'on se pose. Alors, comment est-ce que ceux qui ont mis, par exemple, les urinoirs, ils ne se sont pas dit que peut-être en été, ils ne fonctionneraient pas. C'est quand même lunaire, je me pose vraiment la question. Mais je suis toujours choquée, en fait, interloquée quand j'assiste à des prises de décision pareilles. Soit c'est simplement c'est des partisans du moindre effort qui veulent se débarrasser des projets pour dire oui, on a fait. Mais l'essentiel, c'est de faire bien, de faire les choses et de les faire bien. Et arrêter, en fait, cette gabegie financière qui, au final, ne nous sert pas. Oui. Parce que je suppose que dans très peu de temps, ils vont nous présenter encore d'autres projets où il faudra remplacer les 10 urinoirs qui n'ont pas été fonctionnels et ils iront à la poubelle. Exactement, ils iront à la poubelle, ça ne servira à rien. Et la planète, on y pense. Pour le coup, je défends la planète là.
Ah oui, exactement. Jean Dorido, c'est Kafka ou c'est Uburois ?
Ah ben, c'est vraiment, c'est les deux, mon capitaine, comme on dit dans ces cas-là. Non, mais c'est vrai que ça coupe les bras. Et Philippe Bilger a raison, c'est vraiment la question de la responsabilité des élus qui est au cœur du sujet. C'est vrai sur l'argent, c'est vrai de façon. Plus général encore, on se souvient de certains de nos gouvernants, Édouard Philippe en tête, pour ne pas le nommer, se plaignant devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, justement de cet engagement de la responsabilité, en disant, vous comprenez, c'est très compliqué quand même d'engager sa responsabilité pénale, alors qu'en France, n'importe qui travaille engage sa responsabilité. Un commissaire aux comptes, quand il met un coup de tampon,
pour valider un bilan,
les comptes sont pas bons, il va en prison. Un chef de chantier, si un de ses ouvriers se blesse et n'avait pas ses chaussures de protection, il va en prison. On lui dit, monsieur, vous n'avez pas fait votre travail correctement, c'est vous qui êtes responsable. Et on a le sentiment que nos élus, eh bien, ma foi, seraient les seuls dans ce pays à n'avoir aucune responsabilité. Les seuls comptes qu'ils doivent rendre, c'est devant les électeurs. Et comme, de toute façon, on va sûrement en parler, plus personne ne vote, eh bien, ma foi, voilà, ce sont des gens qui repassent, qui dilapident notre argent, qu'on gagne quand même difficilement. C'est pas facile de gagner sa vie dans ce pays. Et on paye, vous l'avez rappelé, Philippe David, on paye énormément de taxes, d'impôts. Quand on regarde la dépense publique en France, quand on regarde pour un point de PIB, l'argent qu'on dépense, l'argent que les Français donnent à la collectivité pour que cet argent soit réinvesti, et c'est vrai que quand c'est réinvesti n'importe comment, on voit, pardon, mais après je m'arrête, mais on voit qu'on n'a toujours pas créé de lits d'hôpitaux depuis le début de la crise sanitaire. On en a fermé des dizaines de milliers ces derniers temps, et en même temps, on construit des urinoirs qui coûtent une fortune et qui marchent pas. C'est vrai que ça met en colère.
Oui, Philippe Bilger.
Jean, une petite rectification. Vous avez totalement raison pour l'argumentation, mais les gens que vous avez cités au début de votre propos, je vous assure, ne vont pas en prison. Hein. Mais le deuxième point...
Ils engagent leur responsabilité pénale.
Oui, mais vous avez dit ils vont en prison, je peux vous dire que non. Deuxième élément, il est beaucoup plus sérieux. Vous avez totalement raison. Je suis frappé de voir à quel point, sur tous les sujets, dès qu'une polémique naît et qu'on envisage éventuellement une saisine judiciaire, immédiatement on nous répond, je l'ai encore vu pour le siècle avec Duhamel, on nous dit mais non, c'est politique, c'est pas judiciaire. Autrement dit, le politique, l'exclusive référence au politique devient un bouclier absolu pour tout ce qui pourrait relever du judiciaire et qui serait évidemment beaucoup plus intimidant.
On a une question sur Twitch, alors c'est une plateforme de streaming où
on
peut écouter sur le radio.
Ah ouais, on est au top.
Qui nous dit, alors je pense que c'est un pseudo parce que c'est Alain Chabat, faut-il obliger les élus à consulter les citoyens avant les investissements locaux? Mais les citoyens, ils sont peut-être pas compétents en matière de bus électrique, non?
C'est
ça
la question. C'est censé être le cas quand même, pardon Stella, je vous écoute.
Mais moi, à un moment donné, on va pas toujours à chaque fois revenir peut-être on risque de ne pas être d'accord, mais on va pas toujours à chaque fois revenir et demander aux citoyens ce qu'il faut faire, combien de tomates il faut pour la sauce tomate, combien de parpaings il faut pour la maison, combien, si les citoyens pour moi votent des représentants, c'est bien parce qu'ils font confiance à ces représentants là pour prendre les décisions adéquates. C'est vraiment mon point de vue. Si on commence à attendre le point de vue de chaque citoyen, aucune décision ne sera prise à temps. Déjà maintenant on fait face à une lente des prises de décision dans ce gouvernement, ce sera encore pire.
Alors oui, je vous rejoins. Et puis en plus, pour tout ce qui est municipal, c'est quand même prévu. N'importe qui peut assister au conseil municipal, oui. On y va, et pendant le débat, on a le droit de prendre la parole. Et justement, c'est ça qui est fou, c'est que c'est prévu. Et ce qui est terrible, c'est que manifestement, ça ne fonctionne plus.
On va au 0826 300 300, la direction le Grand Sud, la frontière espagnole, le soleil, l'est la neige, direction Font-Romeu. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir les vraies voix.
Bonsoir
à tout le monde. Écoutez, déjà, c'est pas le pays du soleil, on n'est pas loin de la neige. Ensuite, j'aimerais poser une question subsidiaire. Le petit bonjour aussi à mon ami Philippe Bilger.
Bonjour.
Je vous apprécie tous, mais j'ai déjà peu d'amitié par téléphone avec lui. Enfin, de mon fait jouer à ce qui me concerne. Voilà. Non, la petite question, c'est que j'ai reçu une douche écossaise de 0826-300-300. Je voulais savoir si c'est vraiment si cher que ça, ce 08.
Voilà, non. 0826-300-300, c'est 5 centimes par appel. Donc, moins, c'est simple.
C'est pas ce que m'a dit Orange. Bon, je vais passer là-dessus parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Simplement pour dire que tous ces marchés-là, ces marchés publics, ça passe donc par des appels d'offres. Il y a des cahiers des charges, vous voyez. Donc je comprends pas pourquoi c'est encore le gaspillage. Il y a quand même des fonctionnaires qui n'ont pas fait leur boulot. Ces histoires en plus de pipi, c'est vraiment inconcevable. Voilà.
Ça c'est vrai. Merci beaucoup Bernard de Formeux. Ça c'est une vraie question parce qu'il y a des appels d'offres. Mais parfois j'ai un peu vécu ça dans une vie antérieure. Certains appels d'offres sont tellement mal rédigés qu'on peut se poser des questions.
Si pour les urinoirs il y a eu de la corruption, pour revenir sur le sujet d'Anticor, c'était forcément de toutes petites commissions.
Effectivement, magnifique.
Oui, il y a eu du coulage peut-être.
De mieux en mieux. Verdict sur Twitter. Le deuxième débat, gaspillage d'argent public, les élus locaux doivent-ils payer? Vous êtes 88% à dire oui. Et là, on va, dans quelques instants, mais après une courte pause, on va pas payer, on va jouer. Avec Jean-Marie Bordry, vous savez comment ça s'appelle? Les rois de l'info. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Jean Dorido. Et maintenant, on va jouer au roi de l'info, évidemment, en compagnie de qui? De Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Bonsoir Jean-Marie.
Gardez-vous. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et bonsoir à Hakim qui nous appelle au 0826-300-300 depuis Tremblay en France, je crois.
Bonjour, ce sera plus simple.
Ben, bonjour, ouais, exactement. Vous allez bien, Hakim?
Mais ma foi, j'ai froid, mais je vais bien.
Bon, écoutez, vous êtes comme presque tout le monde, en tout cas. Ouais, d'abord, Hakim, je vais vous proposer de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres, Stella Kamga, Jean Dorido ou Philippe Bilger.
Philippe Bilger, c'est pas mon ami. Je vais choisir Philippe David.
Ah non, mais moi, je joue pas là aujourd'hui. Je suis animateur.
J'ai dit Jean Dorido.
Merci. Je fais arbitre.
Jean Dorido ou Stella Kamga?
Ah bah non, dans ce cas-là. Là, alors.
Allez, Hakim, je rappelle la règle. Je vais vous poser trois questions. Vous répondez en premier. Vous avez le droit de vous planter. Si vous vous plantez, les trois vraies voix se battent pour avoir la réponse. La première qui répond, si c'est Stella, vous apporte le point. Si c'est les autres, vous le perdez. On est parti?
D'accord, allez, on est parti.
Allez, devinette. C'est une drôle d'histoire qui est parue dans l'Est républicain. Une habitante de Pontarlier, c'est dans le Doubs, a choisi de dormir chez un ami pour ne pas violer le couvre-feu. C'est normal, c'est honnête. Malgré ça, elle a quand même écopé d'une amende de 135 euros. D'après vous, pourquoi? Réponse numéro 1, parce qu'elle est rentrée chez elle, mais sans attestation, juste avant 6 heures du matin, donc elle s'est fait coincer pendant le couvre-feu. Réponse numéro 2, parce qu'elle s'est fait dénoncer par son mari, qu'elle avait laissé tout seul chez elle. Ça peut arriver aussi.
Mauvaise pioche.
Réponse numéro 3, parce que son chien, resté tout seul à la maison, a aboyé toute la nuit, ce qui lui a valu une amende pour tapage nocturne. D'après vous.
Chien.
Ah, moi j'opte pour le chien, moi.
Allez, je vous l'accorde. Un point partout.
Philippe, tu triches.
1-0.
Oui, 1-0. Allez, effectivement, il n'a pas apprécié. Le chien, il a aboyé une grande partie de la nuit, ce qui a provoqué l'ire des voisins. Tapage nocturne, raté.
Et le mari n'a pas fait taire le chien, alors.
Mais il n'y avait pas de mari dans l'histoire. Vous ne mêlez pas de la vie privée des gens, Jean Dorido.
Chienne de vie. Hein.
Chienne de vie, exactement. Chers amis, on continue. Nous sommes le 12 février, Hakim. C'est comme chaque jour la fête de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est la fête de tous ceux qui portent un prénom masculin, qui veut dire en latin soit fécond, soit fertile, soit chanceux, soit heureux en latin. C'est un prénom qui est souvent donné à un chat également. D'après vous, c'est la Saint quoi?
Je sais pas, la Saint Lucky.
Saint Félix.
Allez, c'est raté, mon cher Hakim.
Je suis parti sur ça.
La Saint-Félix, Félix, félicité.
Voilà. Félicité.
La félicité, bon, voilà. Le français descendu latin. Jean. Allez, bon, un partout. Bon. On continue.
Un partout, ça va être dur.
12 février, c'est le but en or, mais vous répondez quand même en premier, Hakim. 12 février, c'est également l'anniversaire de la naissance d'un des plus grands scientifiques de l'histoire, un naturaliste anglais, né en 1809, grâce à qui nous savons beaucoup de choses, et entre autres, grâce à qui nous savons que l'homme et le singe ont le même ancêtre.
Darwin, alors.
Allez, bravo, c'est gagné.
Bravo, 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 bravo.
On a gagné.
Charles Darwin, ouais. Exactement. Exactement, il est né le 12 février 1809 à Shrewsbury, c'est en Angleterre. Il
est comme Louis Braille.
Mais oui.
Et ah, 1809, Louis Braille, oui, je crois.
Bravo.
Exactement.
Voilà. On a trouvé un deuxième
Louis
Philippe David.
1842, d'ailleurs.
On a trouvé un deuxième Philippe David. Oh. Bravo.
Ah, là, fort, hein. Là,
Hakim, on fera une battle entre vous et Philippe David sur la mémoire des chiffres.
Ouais.
Est-ce que vous, comme Philippe David, il vous arrive aussi de retenir des informations pas forcément utiles, mais qui sont bien stockées quelque part, que vous pouvez nous sortir?
Louis Braille, vous savez, les utilisateurs, les aveugles, vous le direz à Caroline Pilas.
Hein. Alors ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous pose la question pour les autres, parce que Louis Braille, c'est une vraie date importante. Mais en tout cas, bravo pour votre culture et votre mémoire, Hakim.
Écoutez, hein, ça s'entretient.
Allez, ça s'entretient.
À qui je vous pose une question, ben, pour vous tester. Vous savez, Sud Radio, c'est la station du rugby. Vous aimez le rugby?
Non.
Ouais, bon, allez, c'est une question de culture générale. Quelle équipe a gagné le tournoi des Six Nations? La France va jouer l'Irlande l'année dernière.
Oh là, bonne. L'Afrique du Sud, non?
Les Six Nations, c'est l'hémisphère nord. Ils ont un maillot blanc, ils ont une rose dessus. Je vous aide un peu.
On voit vraiment pas qui ça peut être.
Écoutez, je vois aussi bien que Caroline Pilastre, alors je peux pas vous le dire.
C'est la perfide Albion.
C'était
Hakim.
L'Angleterre et la France a perdu à la différence de points.
C'est pas grave.
Mais cette année, mon cher Hakim, les Bleus vont gagner et ils vont aller gagner en Irlande dimanche. Ce sera bien évidemment en direct sur Sud Radio.
Merci allez, restez beaucoup, en ligne, bravo. Restez en ligne, mon cher Hakim, et vous allez retrouver Haute-Saint-Hilaire au standard de Sud Radio. Vous lui donnez votre adresse, elle vous envoie un mug Sud Radio. Passez une belle soirée, mon cher Hakim. À très bientôt.
Et à 18h30, merci et bravo Hakim. Ce sera notre grand débat. La République en marche, essaie-t-elle de doubler le Rassemblement National par la droite? Si on parlait de rugby il y a quelques instants, on sera avec le pilier absolu des vraies voix, le Jean-Pierre Garouet des vraies voix. Philippe Bilger, ça vous va?
Oui, mais mon Dieu, j'ai pas le même enveloppé, j'ai pas le gabarit de Garuel.
La Antoinette Dupont des vraies voix, Stella Kamga, merveilleux demi de mêlée. Et allez, on va prendre le Jean-Pierre Romeu des vraies voix. Grand Chelem 77, Jean Dorido, restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Les vraies voix sont au mode britannique, puisqu'il y a 35 ans aujourd'hui, Margaret Thatcher et François Mitterrand signaient l'accord pour la construction du tunnel sous la Manche. Et les vraies voix ont toutes quelque chose d'un illustre Premier ministre britannique. Philippe Bilger, qui ne cherche jamais à faire la synthèse dans le débat, et le Churchill des vraies voix, puisque Churchill disait « Un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé. » Tiens, je crois que Philippe Bilger fait la politique de la chaise vide. Il s'est transformé de Winston Churchill au général de Gaulle, de contemporain. C'est quand même amusant, non? Vous trouvez que ça lui va bien, Winston Churchill?
Ah ben, c'est classe.
Il a de l'allure, là.
Comme elle n'est pas fan du consensus, elle non plus, Stella Kamga est la Margaret Thatcher des vraies voix, puisque Margaret Thatcher disait « Il me semble que le consensus désigne le procédé par lequel on abandonne nos opinions, principes, valeurs et politiques. »
Je l'adore, Margaret Thatcher.
Ah oui,
j'adore.
Et Jacques Chirac se demandait si elle n'attendait pas qu'il lui apporte ses bijoux de famille sur un plateau.
Oui, absolument. D'ailleurs, elle avait demandé à l'interprète de traduire et l'interprète avait dit « Êtes-vous sûr que vous vouliez que je traduise ?» Et elle avait répondu « Je n'ai jamais rien compris aux hommes, en particulier les Français. » Enfin, Jean Dorido, notre docteur en psychologie, est le Tony Blair des vraies voix. Puisque l'ancien Premier ministre britannique disait « Accrochez-vous bien ». Vous n'avez besoin que de deux choses dans la vie, votre santé mentale et votre femme. Isabelle va être contente.
Ben écoutez, oui, c'est une belle, voilà, un bel hommage.
Et votre santé mentale, elle en est où?
Écoutez, on fait ce qu'on peut, on se maintient. Ce n'est pas toujours facile par les temps qui courent, mais bon, il faut garder le cap.
Vous pensez quoi de la santé mentale de Jean Dorido, notre docteur en psychologie, ma chère Stella?
Ce soir, il n'a pas beaucoup d'humour.
Ah bon, Philippe Bilger.
Je vais faire un effort, c'était la promesse.
Philippe Bilger, vous avez arrêté la politique de la chaise vide. On vous avait comparé à Churchill et vous avez fait du De Gaulle.
Non, mais pas du tout. Je pensais à Jean de Rideau et le vendredi, quand il est là, c'est toujours un vendredi saint, santé au beau.
Oh, bah, ça fait plaisir. Alors, écoutez, j'ai bien fait de venir, Philippe.
C'est beau. Et voilà. Ah oui, et Jean-Marie Bordry au roi de l'info, au clin d'œil et aux réseaux sociaux, Jamel à l'AREA et Aude au standard. Eux, c'est carrément la famille royale britannique. Il n'y a pas à dire. À 18h30, notre débat, La République en marche, essaie-t-elle de doubler le Rassemblement national par la droite? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et Twitter. Ça vous dirait un second tour de table de l'actualité?
Allez, on est parti.
Eh bien, c'est parti.
Partant pour un deuxième tour.
Non, il faudrait sérieusement penser à grandir la table.
À mon tour.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et vous, Jean Dorido, vous voulez parler de la baisse des contaminations par le Covid-19?
Bah écoutez, oui, parce que quand même les nouvelles justement de se réjouir sont suffisamment rares pour que quand même on puisse souligner que pour le moment, les chiffres de l'épidémie sont à la baisse, même si bien sûr nos gouvernants restent inquiets, c'est normal, c'est leur rôle, leur devoir d'être prudents. C'est un fait, les chiffres baissent, le nombre de contaminations baisse en moyenne sur 7 jours, le nombre de personnes en réanimation baisse, et ça ça n'est pas qu'en France, parce que quand on regarde à un niveau mondial, c'était un papier dans le Parisien aujourd'hui en France d'aujourd'hui, et bien là aussi les chiffres sont à la baisse, donc c'est quand même assez réjouissant, et par conséquent, même s'il faut évidemment rester prudent et ne rien lâcher, notamment sur les gestes barrières, je ne comprends toujours pas pourquoi les cinémas restent fermés. J'aimerais comprendre comment est-ce qu'on peut laisser des cantines d'entreprises ouvertes et fermer les cinémas, alors qu'au cinéma on est quand même silencieux, plongé dans le film, masqué, on pourrait mettre les gens à distance les uns des autres, et ça vraiment je ne le comprends pas, et j'aimerais aussi que les scientifiques puissent réussir à se mettre d'accord pour comprendre comment le virus réussit à circuler encore aujourd'hui dans notre pays. Tout est fermé, cinéma fermé, grandes écoles, universités fermées, restaurants fermés, bistrots fermés, boîtes de nuit fermées, remontées mécaniques fermées, musées fermés, tout est fermé. À 18h, tout le monde rentre chez soi. Manifestement, le virus circule encore. On a même des clusters là, en Moselle, c'est assez inouï. Et ce serait quand même bien que les scientifiques réussissent à comprendre, plutôt que de faire des prévisions qui n'adviennent pas. On peut quand même le rappeler aussi au passage, ce serait mieux de regarder plutôt ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour comprendre comment ce satané virus réussit à circuler alors que tout est fermé.
Philippe Bilger, un resto ciné, ça vous manque pas ?
Ah, énormément. Ce sont les deux seules choses qui me manquent aujourd'hui, mais j'ai admiré l'énergie et la flamme de Jean Dorido, et j'avoue qu'il y a un petit paradoxe, et sérieusement, c'est que vous avez toujours été, Jean Dorido, un défenseur très convaincant de la science, et depuis quelque temps, au contraire, on félicite les politiques d'avoir repris la main sur les scientifiques. Et est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction ?
Ben, c'est-à-dire que alors, merci de
pardon m'aider. Philippe David de prendre votre rôle éminent.
Merci de m'aider à préciser mon propos, Philippe Bilger. C'est vrai que c'est assez problématique de voir que nous n'avons pas dans ce pays des scientifiques capables de se mettre d'accord et capables de faire de la science. C'est ça qui est embêtant. On a beaucoup de hauts fonctionnaires, on a beaucoup de bureaucrates. Pour autant, c'est vrai que manifestement, on manque de scientifiques qui soient capables d'analyser précisément ce qui se passe. Je ne voudrais pas polémiquer. Maintenant, c'est vrai que les agences régionales de santé étaient censées justement faire le nécessaire, coordonner justement des brigades qui devaient tracer, qui devaient justement réussir à nous aider les uns les autres à comprendre comment tout ça se passe. Et oui, bien sûr, ça, je ne vois pas de contradiction. La science, c'est essentiel. Ça permet de sortir du fantasme. Et en même temps, le politique est dans son rôle. Et au passage, vraiment, merci, monsieur le président, de ne plus vous laisser hypnotiser dans le mauvais sens du terme, par des oracles. En fait, le problème du scientifique, c'est quand il arrête de faire de la science et qu'il devient un oracle, ouais. Et Madame Soleil, ça marche pas.
Stella Kamga, vous qui êtes jeune, ça vous manque pas les restos, ciné, etc.
Surtout restos et ciné. Je suis de base casanière, donc je préfère sortir le jour, pas la nuit. Mais moi, en réalité, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vu une information passer tout à l'heure, bien évidemment, il faudrait que je la vérifie, c'est que... Il paraît qu'il y a déjà l'autorisation pour le personnel soignant et un âge un peu comme celui d'Olivier Véran, qui, enfin, ils sont autorisés en tout cas à se faire vacciner et il y a un hôpital qui a arrêté la vaccination parce qu'il y a eu trop de réactions
allergiques.
Oui, allergiques. Oui, des arrêts de travail.
Voilà,
avec
donc,
AstraZeneca.
C'est ça. Merci Philippe Bilger. Du coup, moi, je reste encore dubitatif sur cette question du vaccin. Je ne suis pas en train de vouloir alarmer ou alerter les gens, mais moi, ce qui m'inquiète véritablement depuis cette histoire de Covid, c'est la communication. Il y a un sérieux problème de communication. On a une partie qui dit ça et puis une autre partie qui contredit. Et finalement, on est tous là au milieu un peu bébête. On ne sait pas où donner de la tête.
Eh bien, c'était le second tour de table. Très, très court.
Pardon, très vite, Stella. Si je peux vous rassurer, j'ai une première injection de Pfizer et je n'ai pas eu d'autres effets secondaires que ceux que j'ai en permanence.
On ne demandera pas lesquels, c'est le secret médical. Vous êtes bien dans les vrais coups à 18h15. Dans quelques instants, on va faire le point sur la situation des TPE et PME françaises et de leurs besoins en cash. On sera en compagnie de Benoît Desteracht, DG de Fiducial Bank, et Frédéric Habitbol, vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Jean Dorido. On va parler dans les vraies voix de la situation des TPE, PME et de leurs besoins en cash. Nous sommes en compagnie de Benoît Desteracht, DG de Fiducial Bank. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Frédéric Habitbol, vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, tiens Frédéric Habitbol, que disent les bilans de nos PME qui ont clôturé en fin d'année ? On commence à y voir un peu plus clair à la mi-février ?
Alors, on ne commence pas encore à y voir beaucoup parce que les TPE-PME ne sont pas les sociétés qui clôturent le plus vite. De celles qu'on commence à voir, c'est sans surprise, celles qui souffrent le plus, c'est les entreprises du tourisme, les restaurants, l'hôtellerie, les salons, la restauration, le commerce non alimentaire, tout ce que tout le monde sait bien intuitivement et qui se confirme dans les chiffres.
Alors justement, la trésorerie, où en est-elle ? Ce ne sont pas les PGE, qui font les prêts garantis par l'État, qui font la trésorerie de nos TPE-PME. On avait le président du syndicat national des banques samedi dernier dans le Grand Matin Week-end qui nous a dit que les banques avaient accordé des PGE dont elles savaient que les entreprises ne pourraient pas les rembourser, Benoît Desteracht.
Alors je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que les banques ont donné, avec l'appui de l'État, un vrai coup de fouet à l'économie et ont permis aux boîtes de survivre. Ou de vivre. Juste deux, trois chiffres qui me paraissent importants. Les TPE, donc les boîtes de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ont bénéficié de 53 milliards de PGE pour 574 000 entreprises. Donc ça veut dire qu'elles ont en moyenne 92 000 euros de PGE à rembourser. Et les petites et moyennes entreprises, donc ces entreprises qui font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ont bénéficié de 45 milliards de PGE et ont en moyenne 1 381 000 euros de PGE à rembourser. Mais la trésorerie des entreprises aujourd'hui n'est pas liée qu'à ça, elle est liée aussi au report des charges, notamment les reports des charges URSSAF et autres. Donc aujourd'hui, encore, la trésorerie des entreprises est plutôt bonne et on voit peu d'incidents de paiement, et on voit peu de pas de retard de paiement. Attention à ce qui va se passer après.
Alors justement, Frédéric Habitbol, vous avez entendu Benoît Desteracht, les défaillances d'entreprises sont en baisse de 39% en 2020, selon la Banque de France, ça a été communiqué avant-hier. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elles sont sous assistance respiratoire et que dès qu'on va débrancher, ça va être la tempête ? Je reprends ce qu'a dit à mot couvert, si je ne m'abuse, Benoît Desteracht.
Alors d'abord, c'est une bonne nouvelle. Je crois qu'on pourra tous en convenir. C'est un peu la divine surprise. Tout le monde nous annonçait des murs de faillite, des tsunamis de défaillance. Il n'en a rien été et on en est évidemment très content. Il y a beaucoup de raisons à ça. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. La baisse d'activité considérable qui a frappé beaucoup d'entreprises en France, elle a été financée de deux façons. La première façon, c'est les annulations de charges, le chômage partiel, tout ce qui a permis d'externaliser la perte. Une entreprise qui touche le chômage partiel ou qui a une exonération de charges, c'est de l'argent qu'elle ne perd pas. Et donc là, c'est la collectivité qui assume cette partie des pertes. Et puis l'autre façon de financer les pertes, c'était les PGE ou les reports de charges. Et là, c'est très différent, c'est de la dette. Et on finance de la perte par de la dette. Donc à ce titre-là, oui, certaines entreprises sont sous assistance respiratoire, bien sûr. C'est un choix politique qui a été fait. On a résolu un risque d'effondrement collectif, au début du premier confinement notamment, et on a créé un problème de surendettement. C'est plutôt une bonne chose. Une défaillance d'entreprise, fondamentalement, c'est quoi ? C'est une crise de trésorerie. C'est quand il n'y a plus d'argent et qu'on n'est pas capable de faire face à ses dettes. Or, aujourd'hui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, on va évidemment sortir de ce système un peu extraordinaire qu'on pourrait qualifier d'hélicoptère monnaie à certains égards. Et quand on va débrancher, on va voir des bilans très dégradés. On va voir que les entreprises ont perdu beaucoup d'argent. On va voir qu'elles sont beaucoup plus endettées qu'au début de la crise. Mais aussi souvent, on va voir qu'elles ont encore du cash. Et donc la clé, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce cash ? Il faut qu'on investisse. Il faut que les entreprises se servent de l'argent des PGE, pas simplement pour financer des pertes immédiates, mais pour construire l'avenir. Pour construire l'avenir, il faut de la confiance. Pour pouvoir avoir confiance, il ne faut pas avoir un bilan dégradé. Et donc, ça nous renvoie au problème du traitement de la dette. Il faut qu'on s'attaque au nettoyage des bilans, au traitement des dettes qui ont été constituées pendant cette période un peu extraordinaire. Et en particulier, l'une des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'on fait des PGE ? Est-ce qu'on peut les transformer en fonds propres ? Et ça fait partie des débats politiques qui s'engagent.
Justement, pour nettoyer les bilans, on a besoin des banquiers. Benoît Destarac, je rappelle que vous êtes DG de Fiducial Bank. Les banques vont-elles jouer le jeu avec les entreprises déjà pour les droits à découvert, et deuxièmement, pour les accords de crédit si elles veulent réinvestir?
Je crois qu'il faut que les chefs d'entreprise aient bien conscience que la sortie des bilans 2020 va permettre aux banquiers de faire un état des lieux précis de leur entreprise et donc va donner lieu, comme d'habitude, à une notation. Cette notation peut être dégradée. Et si elle est dégradée, lorsqu'on viendra demander un crédit à la banque, les conditions seront plus complexes et plus compliquées. Donc moi, ce que je passe comme message, c'est vous êtes aujourd'hui dans une période où vous avez le temps de regarder l'état de votre trésorerie, où vous avez le temps de vous dire est-ce que je vais ou pas dans le mur demain, comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place mon remboursement de PGE. Vous avez rendez-vous avec vos banques dans les mois qui viennent pour reprendre une franchise d'un an, définir si vous le remboursez sur 4 ans après. Profitez de ce moment-là avec vos experts comptables et vos conseils pour faire un vrai diagnostic et voir comment vous allez passer le cap et quels sont les points d'attention sur lesquels vous devez travailler. Parce que quand le cash commence à disparaître, on va vite dans le mur et c'est là qu'il faut prévoir ce moment-là.
Ça, c'est certain. Justement, question pour tous les deux. Quelles sont les entreprises qui se tirent le mieux de cette année 2020 compliquée ? Industrie, services et celles qui s'en tirent le plus mal, Frédéric Habitbol ?
Celles qui s'en tirent le plus mal, c'est celles qu'on empêche de travailler encore aujourd'hui, ça c'est évident, et celles qui s'en tirent le mieux, c'est un peu toutes les autres. Je pense qu'au-delà de cette question très immédiate, celles qui vont s'en tirer le mieux, c'est celles qui vont comprendre qu'on est en train de pas seulement de vivre une crise sanitaire, on est en train de vivre certaines mutations qui vont être durables. Donc il faut absolument lever le nez du guidon, au-delà du problème très immédiat, de quoi est fait l'avenir. Il y a des comportements qui ont déjà changé. Et ça, c'est des comportements durables. Le télétravail, ça s'est installé pour de vrai, ça induit plein de choses dans les transports, dans nos modes de vie, dans les lieux de consommation, dans plein d'aspects de la vie économique. Le développement du e-commerce s'est considérablement accéléré pendant la pandémie. Et évidemment, ça va durer aussi. Ça se traduit par plein de sujets, ici encore, notamment pour le commerce physique, les niveaux de loyer des magasins, les niveaux de loyer des bureaux. Il y a plein de sujets qui se posent. Et puis, les entreprises, évidemment, doivent s'adapter aux grandes transitions qu'on connaît tous, la transition digitale, la transition écologique. Aujourd'hui, on est dans cette phase où il y a de l'argent et il y a une transformation à mener. Donc, il faut absolument que les entreprises, celles qui s'en sortiront bien, c'est celles qui vont employer cet argent pour mener à bien ces transformations.
Benoît Destarac, même question, qui s'en tire le mieux et le moins bien, les industries, les services ?
Aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est que l'industrie s'en sort pas si mal que ça. Plutôt, en général, plutôt bien, parce que il y avait un besoin de restocker, il y avait un besoin, et il y a eu des pans d'activité, je pense aux meubles par exemple, où il y a eu des booms d'activité qui ont été liés au confinement, c'est-à-dire que les gens ont changé leur habitude de dépenser, de consommation. Donc il y a des secteurs qui s'en sont bien tirés. Les services, pour certains, s'en sont très bien tirés. Ce qui a le plus souffert, c'est ce que disait Frédéric Habitbol, c'est tout ce qui est autour du commerce de détail et de retail, et bien sûr toutes les entreprises qui sont autour de l'événementiel, de l'hôtellerie, restauration, qui ont le plus souffert des effets de la crise actuelle.
Allez, il nous reste 1 minute 30. Une question à chacun la même. Quelle perspective pour 2021, Frédéric Habitbol ?
Moi, je suis optimiste. Je pense que, d'abord, le plus dur de la crise sanitaire est derrière nous. Il y aura évidemment beaucoup à faire, je le disais tout à l'heure, pour restructurer des dettes d'entreprise. Mais restructurer des dettes, c'est vraiment beaucoup moins embêtant que de gérer des faillites. Donc, je suis optimiste. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts pour s'en sortir.
Même optimiste, de votre part, Benoît Destarac ?
Je pense qu'effectivement, il y a un redémarrage qui va se dessiner sur le troisième trimestre, troisième ou quatrième trimestre 2021, parce qu'on a bien vu que dès qu'il y avait réouverture, les gens avaient besoin de consommer. Je dis juste un grand attention, surveillez votre trésorerie, regardez comment vous allez avancer dans ce redémarrage, parce que les besoins de fonds de roulement vont augmenter, et soyez certains et anticipés pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises.
Merci beaucoup à tous les deux, merci beaucoup Benoît Desterhaeck, directeur général de Fiducial Bank, et Frédéric Habitbol, vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. À 18h30, dans quelques instants, notre grand débat. Darmanin Le Pen, La République En Marche essaie-t-elle de doubler le Rassemblement National sur sa droite? Eh bien, pour le moment, vous êtes 80% à dire oui. Vous savez comment réagir? Le 0826 300 300 et Twitter. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Stella Camga et Jean Dorido. Marine Le Pen et Gérald Darmanin ont débattu hier soir sur France 2. Plusieurs sujets ont été évoqués, dont l'immigration et la loi sur le séparatisme. Le ministre de l'Intérieur a tout d'abord attaqué la présidente du RN sur son approximation des chiffres, puis sur sa stratégie de dédiabolisation. Écoutez Gérald Darmanin.
Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être.
Vous regrettez qu'elle soit molle? Je ne comprends pas bien.
Bah, disons que je crois que dans son souci... Non, mais ce n'est pas une question de droite. La laïcité, c'est une grande valeur de gauche, vous savez bien. Historiquement, c'est une valeur de gauche. La droite s'en est ensuite emparée, comme tous les républicains. C'est une très bonne chose. Moi, je suis républicain, et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que Mme Le Pen, elle a envie aussi d'être au pas entre la droite et la gauche, mais républicaine.
Marine Le
Pen
est républicaine.
Mais je dis simplement que Mme Le Pen je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, Mme Le Pen.
Molle, branlante, prenez des décisions fortes sur la laïcité, le séparatisme. On vous pose cette question ce soir. La République En Marche essaie-t-elle de doubler le RN par la droite? Et pour le moment, vous êtes 80% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et bien entendu Twitter. Avec nous, Guillaume Bernard, universitaire et politologue, auteur du livre « La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'extrogir ». C'est publié chez Desclée de Brouwer. Guillaume Bernard, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Est-ce que Gérald Darmanin, proche de Nicolas Sarkozy, n'essaie pas de refaire le coup de Nicolas Sarkozy avec Le Pen père, le contourner par la droite? Je donne le score de Jean-Marie Le Pen, 16,86 en 2002, au premier tour de la présidentielle, 10,44 en 2007, après Sarkozy et la promesse du Karcher.
Il me semble que c'est surtout un enjeu vis-à-vis de LR. C'est-à-dire que aujourd'hui, Darmanin, qui est un ancien de LR et qui a rejoint Emmanuel Macron, essaye évidemment d'exister sur l'aile droite du macronisme. Et il est sans doute chargé par le président de la République pour la présidentielle de 2022 d'essayer de récupérer le plus possible d'électeurs LR et donc de tenir un discours qui soit le plus ferme possible vis-à-vis des questions d'immigration, d'insécurité, d'islamisme, sujets sur lesquels, Brice Teinturier l'a dit d'ailleurs hier soir en fin d'émission, le RN est le parti politique qui, aux yeux des Français, a le plus de crédibilité et de légitimité. Donc, d'une certaine manière, Marine Le Pen n'avait pas besoin hier soir d'en faire trop. Il fallait qu'elle retrouve d'une certaine manière une certaine aisance, qu'elle fasse oublier le débat de 2017 qu'elle avait, disons-le très clairement, loupé. Et donc, elle n'avait pas besoin d'en faire trop. Il suffisait pour elle d'asseoir, je dirais, le discours traditionnel du RN. Quant à Gérald Darmanin, lui, il avait besoin d'être plus offensif, plus incisif, pour essayer de récupérer le plus possible d'électeurs LR pour Emmanuel Macron, parce que on l'a vu dans une enquête d'opinion récente, la plus grande porosité électorale sur le spectre politique aujourd'hui, c'est entre LR et le Rassemblement National. Autant en 2017, seuls 25% des électeurs Fillon s'étaient reportés sur Marine Le Pen au second tour, autant là, potentiellement, il y en aurait un tiers. Et donc, je crois que c'est ça, essentiellement, que Darmanin a essayé de faire hier soir, essayer d'être le plus possible incisif pour pouvoir éviter l'hémorragie de l'électorat LR vers le Front National au premier tour et surtout, évidemment, au second tour de la présidentielle.
Philippe Bilger, qui a écrit une tribune, d'ailleurs, dans Causeur, au sujet du débat d'hier.
vous n'ajoutez pas remarquable, mon non, cher mais Philippe,
parce que, franchement. Parce
que, excusez-moi, ce serait, d'une platitude vous concernant. Que...
Voilà. Mais sérieusement, merci en tout cas de l'avoir signalé, mon cher Philippe. Mais Guillaume, je vous rejoins totalement sur le point suivant. C'est adressé aux Républicains. Mais voilà. D'abord, il ne faut pas faire trop de sort, mon cher Philippe David, à cette phrase de Gérald Darmanin qui me paraît plus relever de l'ironie que de la conviction. Il est évident que lorsqu'il dit à Marine Le Pen qu'elle est molle, ça n'est pas sérieux. Mais en même temps, il a eu du mal à dissimuler le fait qu'il y a tout de même, sinon une complicité, du moins une forte familiarité entre certains de leurs thèmes. Mais là où je crois que la question posée par Sud Radio mérite une réponse négative, c'est que il y a plusieurs éléments, je vais très vite. D'abord, il ne faut pas oublier que le président a découvert la langue régalienne sur le tard, de manière purement tactique. Deuxième élément, Gérald Darmanin, après avoir été en quelque sorte un Sarkozy, d'une certaine manière, est en train de se recomposer en ministre vaguement centriste, équilibré. Et puis, troisième élément, on comprend bien que Darmanin aura beaucoup de mal à enlever à la droite et à la droite extrême une sorte de monopole dans le régalien, dans ces problèmes que Guillaume a évoqués si justement. Pardon, j'ai été un peu long, Philippe.
La réaction de Guillaume Bernard qui n'a pas pu rater la tribune génialissime de Philippe Bilger dans voilà. Causeur.
Absolument.
Allez-y, répondez.
Alors moi, je crois que, évidemment, le début du débat a été, alors sans doute un peu abstrait, mais en revanche, extrêmement instructif, me semble-t-il, sur la question des délimitations. Parce que vous le savez bien, ce qui pose problème en politique, c'est est-ce qu'on est d'accord sur le sens des mots que l'on utilise. Or, il me semble que, aussi bien Darmanin, qui a essayé de dissocier l'islam de l'islamisme en disant qu'il y aurait un islam modéré, un islam des Lumières, que Marine Le Pen, qui a essayé de dire que, dans le fond, seul l'islamisme posait problème en tant qu'idéologie et pas l'islam en tant que religion, que les deux ont essayé de faire de la dialectique qui est peut-être passée un peu au-dessus de la tête des téléspectateurs et qui, à mon sens, sont deux positions qui sont en partie fausses. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas évidemment d'islamisme s'il n'y a pas d'abord d'islam. Et un islam modéré, bah, dans le fond, ça n'est pas véritablement, aux yeux d'un certain nombre de musulmans en tout cas, un véritable islam. Et donc, par conséquent, vouloir traiter l'islam comme une religion, comme les autres, si j'ose dire, où il y a une distinction des domaines, c'est extrêmement périlleux. Cela dit, il m'a semblé que Marine Le Pen avait une position qui apparaissait d'une certaine manière peut-être plus cohérente, dans le sens où, finalement, elle attaquait, je dirais, l'islamisme en tant que totalitarisme et elle s'est faite le défenseur de la liberté des cultes. Et d'un certain point de vue, elle n'a pas tort parce que, tout simplement, c'est vrai que cette loi sur le séparatisme, eh bien, elle va porter atteinte à la liberté de tous sous prétexte qu'un certain nombre de personnes le dévoient, les dévoient, ces libertés. J'ai plutôt le sentiment que, eh bien, alors que je m'attendais à un débat mauvais, je dois le dire, j'étais extrêmement anxieux, je pensais que ça serait vraiment très mauvais, j'ai tout de même trouvé un débat d'une certaine qualité et dans lequel Marine Le Pen a réussi ce qui était, me semble-t-il, son objectif, c'est-à-dire le fait d'apparaître comme étant crédible. Quant à Darmanin, il me semble que, bien, lui, il était peut-être plus fébrile parce qu'il joue en partie sa propre vie politique. Alors lui, il ne sera pas candidat a priori à la présidentielle en 2022, mais on sait bien que on parle beaucoup de lui comme étant un premier ministrable possible s'il devait y avoir un nouveau changement de gouvernement avant 2022. Et donc par conséquent, avant 2022 ou juste après 2022. Et il m'a semblé qu'il était plus fébrile et que dans le fond, ils ne sont arrivés que à la fin du débat. Et ça, c'est un regret. ils ne sont arrivés qu'à la fin du débat à la question qui est dans le fond la matrice de cette question. Il n'y aurait pas de séparatisme, il n'y aurait pas de communautarisme s'il n'y avait pas eu d'abord une immigration non assimilée.
On va faire réagir voilà. Stella Kamga. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat, Stella ?
Alors, je pense que les attaques de Darmanin envers Marine Le Pen, c'est, ça relevait simplement des messes basses politiques. Moi, je pense à chaque fois qu'il y a un débat qui oppose Madame Le Pen à d'autres, comment dire, élus politiques, je pense qu'ils ne sont même pas là pour débattre. Ils sont juste là en réalité pour la mettre en difficulté, pour essayer de lancer des piques qui vont faire qu'elle va se déconcentrer. Et c'est ça qui fait en sorte que généralement le débat sort du cadre qui est là, hein, c'est-à-dire un cadre de débat où on justement à se cultiver pour, je sais pas moi, une espèce de guerre entre élus politiques. Non, c'est moi qui est le meilleur parti. Non, c'est pas moi. Etc. Bref, moi, ce que j'ai apprécié quand j'ai regardé ce débat-là, c'est que Mme Le Pen a quand même pointé quelque chose de qui est vrai. C'est-à-dire que la loi contre le séparatisme actuellement, c'est en réalité une loi qui est contre les religions. Alors que c'est pas, les religions actuellement ne posent pas problème. C'est le fait qu'il y ait des extrêmes, le fait qu'il y ait des personnes qui s'occupent. Comment dire, qui utilisent leur religion pour en faire un fer de lance pour commettre des crimes, des attentats et tout ce que ça comporte. Donc moi je ne suis pas d'accord quand on dit que voilà il y a pas d'islamisme sans islam. Je ne suis pas d'accord. Il y a des musulmans qui adorent ce pays, qui aiment ce pays et qui sont contre l'islamisme. Et il faut savoir faire la part des choses.
Ça c'est certain.
Et voilà, c'est important de le préciser. Et c'est pas une histoire de pas d'amalgame ou pas faire d'amalgame. Non, je discute avec des personnes, des flics, Abdoulaye Kanté par exemple, qu'on a reçu ici,
oui,
qui défend ce pays, qui est français, qui est un musulman. Français musulman. Et c'est pas lui en tout cas qu'on verrait en train de cracher sur la France. Au contraire, il subit des foudres aujourd'hui parce qu'il aime ce pays.
Du harcèlement numérique.
Voilà,
notamment.
Exactement. Donc moi, je pense sincèrement qu'il faut que c'est dit qu'il n'y a pas d'islamisme sans islam. C'est pas forcément vrai en fait dans le sens dans le sens inverse.
Guillaume Bernard rapidement, puis Jean Dorido.
Alors. Je ne dis pas que tous les musulmans sont islamistes, mais pour qu'il y ait des islamistes, il faut d'abord qu'il y ait une religion qu'est l'islam, qui peut être effectivement interprétée d'une manière rigoriste qui conduit à effectivement l'islamisme. C'est la seule chose que je voulais dire.
Jean Dorido.
Écoutez, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué dans ce débat, c'est un chiffre, c'est 11 millions. 11 millions, c'est le nombre de Français qui a regardé la télévision hier et qui a préféré regarder autre chose que Darmanin Le Pen. Les Français ont préféré regarder une série américaine sur TF1, un film américain sur M6 et un film français sur France 3. Et il y avait seulement 1 900 000 Français qui regardaient ce débat télévisé. Et si on devait employer une métaphore sportive, je dirais que c'était vraiment un match nul, à tout point de vue, d'un ennui, je trouve, abyssal. Moi, vraiment, ça m'est tombé des yeux. Et c'est vrai que, toutes les analyses que j'écoute sont certainement très justes. Maintenant, ce que je trouve assez angoissant, c'est d'abord que précisément les Français ne se passionnent pas pour le sujet et pour cause. 11 millions ont préféré regarder autre chose. Ça renvoie à l'abstention phénoménale qu'il y a eu au second tour de l'élection présidentielle en 2017. 25% d'abstention, c'est la plus grosse abstention qu'on ait connue au second tour depuis plus de 40 ans. Et un autre sujet d'angoisse, c'est encore une fois, c'est prévisions, ces prédictions à la Madame Soleil, vraiment, j'entends tous les analystes parler comme s'il était évident, assuré qu'on ait un match Macron-Le Pen en 2022. Or, c'est très très angoissant, puisque ça ne s'est jamais avéré. Souvenez-vous, en 88, déjà, tous les analystes disaient Raymond Barre sera au second tour.
En 95, Baladur.
Chirac, 95, Baladur. En 2002, Jospin n'était même pas au second tour, c'était justement Le Pen. Et je trouve ça très effrayant j'ai l'impression qu'il n'y a que l'islam au cœur du débat et que vraiment, la question, c'est qui va justement remporter le sujet. Et pour répondre à la question qu'on pose aux personnes qui nous écoutent, est-ce que LREM essaye de doubler le Rassemblement National sur la droite? J'aurais tendance à répondre oui.
Très court, c'est la caméra.
Oui, c'est pour ça qu'en réalité, c'est la suite du débat Darmanin-Le Pen qu'il fallait regarder, parce que j'ai été admirablement...
Il y avait plein d'autres députés, il y avait Boris Ballot, Emmanuel Ménard,
qui ont réussi quand même à traiter
Julien
le sujet,
Aubert,
et j'ai adoré la présentation de Sandra Regol, c'est qui a représenté EELV, et elle avait des positions extraordinaires sur le sujet.
Alors justement, Guillaume Bernard, vous avez écrit un très bon livre, alors pas au niveau des tribunes de Philippe Bilger, évidemment, qui s'appelle « La guerre à droite aura bien lieu ».
C'est beaucoup plus long à lire.
Le mouvement d'extrogir. Quand vous entendez ce que viennent de dire Stella Kamga et Jean Dorido, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. Déjà, le désintérêt pour les Français. Et je vous ai vu dodeliner quand Jean Dorido a dit « on nous vend un deuxième tour déjà acquis ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, mais je suis parfaitement d'accord pour dire qu'on est beaucoup trop loin de la présidentielle aujourd'hui pour savoir quelle sera la finale. Je suis parfaitement d'accord. Il est bien certain qu'il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir l'émergence de nouveaux candidats. Il peut y avoir l'effondrement de certains qui sont aujourd'hui en tête des sondages. Et donc, je suis parfaitement d'accord pour dire que la plupart des Français, une très grande majorité des Français, ne souhaitent pas le remake de 2017, c'est-à-dire ne souhaitent pas Marine Le Pen, Macron. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que l'un de ceux qui pourraient être absents du second tour, c'est plus Macron que Marine Le Pen.
Direction Bergerac, d'où nous appelle Frédéric au 0826-300-300. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir les Philippe, bonsoir vos invités.
Oui. Bonsoir Frédéric. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, moi d'abord, je dois dire que je vois très peu la télé. Mais bon, je peux quand même dire ce que je pense parce que j'ai écouté de courts extraits ce matin, justement en me levant sur Sud Radio. Et pour moi, mais, j'ai vu d'abord un débat de basse-cour, d'infantilisation, et je rejoins M. Dorido quand j'entends qu'il disait que... Je voulais savoir, justement, il a dit le chiffre de gens qui avaient regardé, tellement peu ça intéresse les Français.
1 900 000,
c'est ça. 1 900 000, ouais. Voilà, et je pense que c'est de l'infantilisation. Et de toute manière, j'allais dire aussi qu'on a organisé un test de pseudo-débat non probable du deuxième tour.
Ah, c'était... Alors justement, on va faire réagir nos invités. Philippe Bilger, rapidement, et on donnera le mot de la fin, bien évidemment, à Guillaume Bernard. C'est très intéressant rapidement, ce que dit Frédéric de Bergerac.
Oui, je ne suis pas d'accord avec Frédéric, ni avec Jean Dorido. Certes, il y a... relativement faible nombre de téléspectateurs qui a regardé ce débat que je continue à trouver, sinon éblouissant, du moins très intéressant, voire passionnant, mais il faut tenir compte tout de même de la structure de l'émission et du caractère un petit peu grotesque d'avoir deux arbitres pour un dialogue qui se déroulait très bien. Deuxième élément, je crois que derrière... Guillaume, il est évident qu'il serait absurde de considérer que 2022 n'est pas ouvert. Mais vous l'avez dit, la plupart pronostiquent un duo pour 2022 comparable à celui de 2017. Et je continue à penser que même si les Français ne le souhaitent pas, il est probable.
Le mot de la fin, allez, en 40 secondes à Guillaume Bernard pour répondre à Frédéric de Bergerac, à Philippe Bilger et à Jean Dorido et à Stella, à tout le monde.
Alors, de manière très amicale, je crois que, pour ma part, ce débat a été d'une qualité plutôt bonne. Je peux comprendre que l'on soit heurté psychologiquement, sentimentalement, sociologiquement, par le fait que l'on débatte de cette question, mais incontestablement, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, la question du lien social, la question de l'identité, la question, je dirais, de la pérennité, n'est-ce pas, du corps social dans sa paix et dans sa continuité culturelle et historique, est un sujet qui intéresse les Français. Ils ne vont peut-être pas regarder les débats télévisés, mais c'est un sujet qui est au cœur, je dirais, des préoccupations des Français et qui sera au cœur de la présidentielle, c'est certain.
Verdict sur Twitter. Darmanin Le Pen, l'arrêt, mais essaie-t-elle de doubler le RN sur sa droite ? Eh bien, vous êtes 80% à dire oui. Merci beaucoup, Guillaume Bernard, universitaire et politologue, auteur du livre « La guerre à droite aura bien lieu », le mouvement d'extrogir, publié chez Desclée de Brouwer. On se retrouve dans quelques instants pour le clin d'œil des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Stella Capga, Jean Dorido et bien sûr le clin d'œil des vraies voix avec Jean-Marie Bordry.
Oui, le clin d'œil des vraies voix qui vous propose, mon cher Philippe, eh bien, découvrir la drôle de manière qu'un numériste a trouvée pour pousser les gens à porter le masque correctement dans les rues de Strasbourg. Petit aperçu de ces vidéos qui cartonnent.
Strasbourg ! Nous vous rappelons que le masque est obligatoire.
Ah, c'est lui, j'ai entendu parler.
Et il se porte sur le nez.
Avec un mégaphone, hein, c'est plus simple, il se promène dans la ville, il continue à demander aux gens.
Le masque, s'il vous plaît.
Ah, pardon.
El masco, por favor.
L'humoriste en question s'appelle Marwan Sista. Bonsoir à vous, Marwan.
Bonsoir.
J'ai entendu parler de vous. Vous faites la une.
Ouais, vous faites la une un peu partout. Vous avouerez. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu agressif de prime abord pour une caméra cachée, quelqu'un qui vient avec un mégaphone et vous rappelle que vous portez pas le masque sur le nez. Ils réagissent comment, les Strasbourgeois?
Bah écoutez, plutôt bien. Hein. Plutôt bien, ça se passe super bien. Hein.
À quel moment vous leur expliquez que vous êtes humoriste en fait et que c'est une blague?
À la fin, quand on s'écarte de eux, on laisse passer 3 secondes et ensuite on va les revoir et on leur explique que c'est une caméra cachée et là ils sont contents quoi.
Voilà. Et au début ils réagissent comment? Parce qu'il y a des gens qui le portent mal, hein, on l'a vu, ils l'ont pas sur le nez ou ils l'ont pas du tout. Ils réagissent comment? Ils ont peur de vous ou juste ils s'énervent?
Ben non, quelque part en fait c'est une obligation de porter le masque, donc en fait c'est juste un rappel. Hein.
Ouais.
Le rappel est fait de manière spontanée et c'est vrai que comme après ils savent très bien que c'est vrai, c'est une obligation, ils le remettent et voilà quoi.
Voilà. Pourquoi vous avez décidé de faire ça d'ailleurs? Vous faites beaucoup de sketchs en général, vous avez fait beaucoup de stand-up. Alors comment vous avez eu l'idée de venir prendre le mégaphone pour aller rappeler aux gens de porter le masque?
Bah écoutez, je me suis retrouvé dans l'obligation de trouver une solution pour exister sur Internet, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, tout s'est fermé, donc il a fallu continuer à être artiste, j'ai envie de dire.
C'est ça, exactement, les théâtres étaient fermés, Stella.
Non mais attends Jean-Marie, il y a une meilleure, il a fait une, avant que les centres commerciaux ne ferment là, il était dans les centres commerciaux, et il disait aux jeunes filles, toi déjà tu remets ton masque, après il est parti arracher son déjeuner et elle était dépassée, elle savait pas trop ce qui se passait et après il dit attends tu vas voir, je vais appeler la sécurité, toi remets ton masque, c'était trop drôle.
Vous avez une fan Darwan là.
Bon Darwan, vous avez une première fan dans le studio de Sud Radio, effectivement on se rappelle hein, cette vidéo aussi dans un centre commercial. Non, toi t'as pas le droit de manger, toi tu manges mais toi non, effectivement c'est assez drôle malgré tout.
Justement Marwan Sista, on a un Alsacien qui est avec nous, Philippe Bilger. Ouais. J'aimerais bien vous voir avec quelqu'un qui vous crie dessus avec un mégaphone.
Mais non, mais justement, j'allais féliciter Marwan parce qu'il démontre que les Alsaciens, contrairement à la légende, ont beaucoup d'esprit. Et donc, ça explique le succès des vraies voix. Hein,
exactement, je suis tout à fait d'accord.
Vous allez continuer, Marwan Sista?
Oui, écoutez, on va continuer. Là, on est parti pour Lyon, normalement, jeudi prochain.
Ah bah, c'est chez Jean Dorido.
Parfait.
Et moi, je suis à Lyon demain.
C'est pas le même genre, Lyon. Hein.
Mais c'est très, très bien, Lyon. Et c'est vraiment une super idée. Vraiment, chapeau, Marwan. Parce que c'est vrai que c'est vraiment ça, d'être artiste, peut-être. Réussir à partir de cette question du masque qui concerne tout le monde et de s'en sortir par le haut avec humour.
Ouais.
Et en même temps, le message passe. Là, vraiment, respect total.
Bon, on espère pour vous, surtout, Marwan Sista, que vous allez pouvoir recommencer les stand-up à la réouverture des théâtres. C'était quand votre dernière représentation?
J'ai même pas de date à vous donner, tellement c'est loin pour moi.
C'est vrai. On espère quand même que ça va revenir. Hein. Il est temps malgré tout. Merci quand même de nous rappeler la bonne humeur parce que c'est vrai.
Ah oui, ça fait du bien de rire. Ah, les vidéos sont super en plus. Hein.
Ouais, c'est la phrase de l'année. Il est où mon masque? On n'aurait jamais pensé de dire ça tous les jours à peu près dans notre vie. On l'a tous dit à un moment.
Ah, dans certaines soirées, ça dépend.
Juste une question justement, si on veut voir Marwan, la plateforme la plus simple, où est-ce qu'on va vous voir? Sur YouTube, sur Instagram,
YouTube, Facebook, Instagram, je suis un peu partout. Hein.
Bon,
je suis partout Marwan Sista, je suis facilement retrouvable là.
Bah oui, c'est sûr.
Apparemment pas sur Twitter.
Et si on vous retrouve pas, on a eu une bonne chance de vous entendre dans le centre-ville, ça c'est très clair.
Et le bois qu'on puisse dire, c'est que Marwan Sista n'avance pas masqué, même s'il l'est.
Exactement, tout le monde, on porte le masque.
Exactement. Oh là.
On vous souhaite bon courage, en tout cas bonne continuation, bon courage à vous, à tous les humoristes et tous les stand-uppers d'abord, parce que vous avez quand même besoin
tous,
de continuer. Tous.
Et puis, Jean-Marie, mais qu'est-ce que c'est que ce français stand-up? C'est de l'anglais, ça.
Traduisez-le-moi. Faites-moi mon Google Translate.
Mais je sais pas.
Ah, ben voilà.
Non, mais vous qui êtes un puriste.
Mais j'essaierai d'être un peu plus pur à partir de lundi, c'est promis. Merci à vous, Marwan Sista, humoriste ou humouriste, selon le purisme des uns ou des autres.
Ah, bravo.
Bon courage à vous, mon cher Marwan Sista, et à très bientôt sur YouTube. On vous retrouve assez facilement. Merci à vous d'être intervenu dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.
Et on se retrouve dans quelques instants.
Le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, présent.
Sud Radio, osez investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Osez Investir et vous nous emmenez cette semaine dans le 17e arrondissement de Paris.
Oui Thomas, nous recevons Sylvain Noualet qui est le responsable de l'agence Noualet Immobilier dans le 17e à Paris.
Bonjour Sylvain Noualet.
Alors comment se porte le marché immobilier dans le 17e, Sylvain ?
Le marché dans le 17e, il est un petit peu impacté par naturellement la crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Beaucoup d'attentisme, beaucoup de surveillance des conditions économiques et puis globalement un marché pas si mauvais que ça. Des départs en province, de locataires, d'acquéreurs également et puis bien sûr de propriétaires.
Qui pousse la porte de votre agence en temps normal ?
Ce sont des CSP plus, primo-accédants la plupart du temps, et qui sont en recherche d'implantation dans le 17e arrondissement, dans le quartier Guy-Moquet.
Et quelle est la tendance sur les prix dans cet arrondissement, justement ?
Alors aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à la stagnation, c'est-à-dire une décélération dans certains quartiers, et puis dans certains autres types de quartiers à plus forte connotation de primo-accédants, une diminution des prix de vente, hein, même des loyers. Hein.
Avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville ?
Oui, patientez, faites des offres, il y a des affaires à faire dans ces périodes un petit peu complexes dans lesquelles les prix sont amenés à baisser. Donc regardez, observez et n'hésitez pas à vous positionner.
Merci Sylvain Noualet d'être passé du côté d'Osez Investir. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'agence Noualet à Paris. Quant à vous Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio, osez investir.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Merci à vous les vraies voix, merci Philippe Bilger, Stella Kamga, Jean Dorido. Quel est le menu des vraies voix qui font bouger la France ? Ça roule.
Oui, oui, on va avec vous et Pierre Chasseret. On parle d'automobile dans un instant, jusqu'à 20h avec Pierre Chasseret sur Sud Radio. Une exclusivité dans un instant sur Sud Radio avec le PDG de Toyota France qui lance la Mirai. C'est une nouvelle version en hydrogène. C'est en exclusivité sur Sud Radio. On parlera aussi, vous aimez les voitures de collection ?
Bien sûr.
Ouais, on parlera de voitures de collection justement.
Oh bah fabuleux. Oui. Comme on sait, il y avait la 4 chevaux, l'Alpine et l'espace, c'est fabuleux. C'est on vous retrouve tout de suite avec Pierre Chasseret.
0 826 300 300, tous les amoureux de l'automobile sont les bienvenus de 19h à 20h sur Sud Radio.